Je crois qu'il est bien passé l'heure, donc je vous souhaite la bienvenue. Bonsoir d'abord à tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue à ce dernier café scientifique de l'année 2015, qui a marqué notre 10e anniversaire d'existence. Je voudrais d'abord vous remercier d'être toujours aussi nombreux et fidèles à nos rencontres et à nos discussions. Aujourd'hui, nous abordons un sujet technologique par excellence, mais qui concerne tout le monde, donc très démocratique, et qui concerne chacun d'entre nous, le big data, ou les grandes masses de données. D'ailleurs, on va peut-être au cours de la discussion définir un peu en français comment est-ce qu'on traduit ce terme anglais. On y parlera notamment des potentialités que revêtent les traces numériques que nous laissons dans nos différentes interactions informatiques quotidiennes via Internet, notamment, mais peut-être d'autres choses aussi, dans différents domaines, en informatique, en médecine, en mobilité et en sécurité. Donc il y aura ce soir une grande approche interdisciplinaire, comme vous aurez l'occasion de le constater. Alors, sans plus attendre, je vais demander, comme c'est de coutume, à chacun des intervenants de se présenter très brièvement et de dire ce pourquoi il sera là. Mais on y reviendra encore tout à l'heure au cours d'un premier tour de table. Donc je vais peut-être commencer à l'extrémité de la table avec le professeur Olivier Ribaud.
Bonsoir, bon, je m'appelle Olivier Ribaud, donc je suis neuchâtelois, bien que je travaille à Lausanne maintenant. J'ai fait mes études ici à Neuchâtel en maths, à l'Institut de mathématiques. Je suis très heureux de revenir ce soir à l'Université de Neuchâtel. Actuellement, je suis directeur de l'école des sciences criminelles à l'Université de Lausanne. Et dans ce cadre-là, nous avons tout un tas de questions qui se posent en matière de traitement d'information et probablement qu'on va en parler tout à l'heure.
Merci. À côté de vous ou... Oui, oui.
Pas les étrangers d'abord.
Non, on fait dans okay. l'ordre.
C'est
on
bon.
Fait dans l'ordre. Les étrangers.
Ok, alors moi je m'appelle Kilian Stoffel. Je suis prof ici à l'Université de Neuchâtel en faculté des sciences économiques. Dans le domaine du big data, je travaille déjà depuis une bonne vingtaine d'années. Avant, ça portait d'autres noms. Mais essentiellement, la partie qui nous intéresse dans notre groupe de recherche, c'est vraiment l'analyse de données. Alors, c'était d'abord l'analyse de données, c'est devenu le data mining, et aujourd'hui, je crois, on parle plutôt de big data. Mais ça, c'est le contexte dans lequel on travaille dans ce domaine de recherche.
Alors, Pascal Felbert, je suis professeur en informatique à la Faculté des sciences. Alors, moi, je suis lausannois et je travaille à Neuchâtel. Du contraire. Dans notre groupe, on s'occupe d'un aspect qui est complémentaire avec celui de professeur Stoffel. Et nous, ça fait aussi pas mal de temps qu'on travaille sur les big data sous un autre nom. On travaille sur tout ce qui est stockage et calcul avec les big data, plus que la partie analyse qui est traitée par le laboratoire de monsieur Stoffel.
Bonjour, Amos Perrock, ça doit être moi l'étranger qui vient de Genève, le plus loin, donc du bout du lac de Genève, du bout du lac Léman, pardon.
Ça commence là.
Voilà. Donc moi, je travaille en fait à l'Université de Genève et à un institut qui a été fondé il y a maintenant 15 ans, qui s'appelle l'Institut suisse de bioinformatique. Donc mon sujet de recherche, c'est la bioinformatique, l'analyse avec des moyens informatiques de données venant du monde vivant. Puis ça, on va aller peut-être plus en détail plus tard là-dessus, ce que ça veut dire, mais donc l'analyse de données biologiques.
Bonsoir à toutes et à tous. Antonin Danalet, je suis doctorant au laboratoire transport et mobilité de l'EPFL. Et donc, je suis lausannois de Lausanne. J'ai eu la chance de ne pas avoir beaucoup pris le train pour mon travail. Et donc, j'ai fait ma thèse sur l'utilisation des données des antennes Wi-Fi pour mieux comprendre les comportements piétons. Voir est-ce qu'on peut utiliser ces données pour, par exemple, mieux designer la gare de Lausanne à l'horizon 2030.
Voilà. Donc, merci de cette présentation. Nous avons voulu, à travers ce panel, montrer à quoi servent finalement ces big data à travers les différents projets qui vont être brièvement résumés par ces intervenants pour avoir une idée concrète des résultats qu'amènent ces traces numériques, au fond, qu'on laisse et qui sont peut-être pas toujours mauvais. Donc, on va commencer peut-être brièvement à chacun d'entre vous de rentrer dans le vif du sujet. Mais avant ça, j'aimerais citer un rapport qui a été rendu public le 6 novembre dernier en présence de la conseillère fédérale Doris Leuthard à l'occasion des journées des infrastructures. Et ils avaient organisé cette journée pour parler de la numérisation croissante de la société et notamment de ce que fait la Suisse en la matière. Et ils avaient commandé un rapport auprès de la haute école spécialisée bernoise pour, au fond, un peu sonder les gens de ce qu'ils pensaient du big data, des chances et des risques du big data. Et de leur recherche est sorti un résumé qu'ils ont présenté à cette occasion le 6 novembre. En guise d'introduction, je me suis donc inspiré de leur rapport et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'ils commencent par définir le big data, ce qui peut être assez amusant comme une formule. Pour eux, le big data, c'est fournir aux bons utilisateurs et au bon moment les bonnes informations issues d'une masse de données. Voilà, donc déjà, il y a, on le voit, une intention de personnalisation. C'est d'ailleurs ce qu'ils mettent parmi les points positifs du big data, c'est-à-dire une personnalisation d'offres et d'informations, des meilleures prévisions dans des domaines très variés, une flexibilité accrue des entreprises et des organisations qui peuvent plus facilement prendre des décisions et des virages, et tout ceci en se basant sur davantage de faits. Voilà pour les points positifs très généraux qu'ils résument dans leur rapport. Et pour les points négatifs, ils ont dit pudiquement délicats, il y a la protection des données. Il y a une tendance à une répartition inégale des pouvoirs, avec un risque de troubles sociaux, et un profit surtout axé pour les grandes entreprises. On pense, j'imagine, là, aux géants du web. Alors, dans la balance entre les avantages qu'on retire de l'exploitation de ces grandes masses de données et, disons, ce qu'on nous demande en échange à tous les citoyens, c'est-à-dire au fond un peu de nos données personnelles, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Et c'est ce que nous tenterons de déterminer ce soir en compagnie de nos intervenants, qui sont des scientifiques qui travaillent justement avec de grandes masses de données, et on va en savoir plus sur leur sujet. Et encore avant cela, une autre chose intéressante, c'est pourquoi grand? Alors, dans Wikipédia, j'ai vu cette définition intéressante, c'est qu'on brasse ici des ordres de grandeur qui s'appellent les états-octets. Alors, les informaticiens me corrigeront. J'ai fait mon calcul, j'ai un peu peur de le livrer. Donc, moi, je dis qu'un zeta-octet, c'est 1000 milliards de milliards d'octets, 10 puissance 21. Alors, est-ce que c'est une estimation correcte? Vous me corrigerez. Voilà, donc on est vraiment dans des grands ordres de grandeur. Et pour parler plus concrètement, les données numériques créées dans le monde étaient de 1,2 zeta-octets en 2010. Et elles ont pratiquement, presque triplé, en passant à 2,8 en 2012, en 2 ans. Et selon Wikipédia toujours, on prévoit qu'elles s'élèveront à 40 zeta-octets en 2020. Donc on va passer en 10 ans d'un facteur 40. C'est assez énorme et ça donne tout le vertige de ces chiffres que l'on brasse à travers le big data. Alors, dans un premier tour de table, j'aimerais tout d'abord demander à Amos Berock, qui nous vient de plus loin, donc honneur à lui. Vous êtes sans doute l'un des pionniers du big data utile à la médecine. Votre spécialité, ce sont les protéines humaines que vous avez classées dans des bases de données informatiques dès le milieu des années 80. Votre recherche est bien reconnue par vos pairs. Vous êtes lauréat de pas moins de 6 prix scientifiques. Et donc, à ce titre-là, dont le prix LATCIS, J'aimerais que vous nous parliez de la genèse de ces recherches sur les protéines que vous faites et la façon dont elles ont évolué, ces recherches, et au fond, vers quelle finalité aujourd'hui ?
Merci. Alors, il faut peut-être que j'explique que, en fait, la biologie, enfin, les sciences de la vie ont beaucoup changé depuis 30 à 40 ans. Elles sont devenues, en fait, des sciences riches en informations, en data, justement, parce qu'il existe de plus en plus de méthodes qui permettent d'aller explorer les composants du monde vivant, que ce soit notre patrimoine génétique, ce qu'on appelle le génome, les protéines, qui sont les acteurs du monde vivant. Donc, on est fait de milliers de protéines différentes qui agissent chacune comme des nanomachines, on pourrait les considérer comme des nanomachines. Il y a plein de produits chimiques dans notre corps, c'est le métabolisme, et donc on parle de métabolomique. Donc on étudie la génomique, la protéomique, les protéines, la métabolomique, plein de omiques, comme ça. Donc on étudie ces constituants du vivant avec des technologies de plus en plus, qui produisent de plus en plus de données. Mais là où il faut peut-être faire un bémol, c'est qu'elles produisent beaucoup de données, mais pas autant de connaissances que ce qu'on pourrait penser. Donc il faut faire une différence entre le big data et le small knowledge. Parce que dans les sciences de la vie, c'est exactement ça pour l'instant. On a une explosion de données. Et pour prendre un exemple, ma banque de données a commencé avec 3000 ou 4000 protéines. Maintenant, il y en a une centaine de millions, mais ces chiffres n'ont aucune importance d'une certaine manière parce que les connaissances sur ces protéines n'ont pas explosé de la même manière. Donc, je vais donner peut-être un autre exemple. Maintenant, il est possible, pour moins de 1000 francs, d'explorer le patrimoine génétique d'un individu. Donc, la plupart des gens qui sont dans cette pièce, je pense que dans 5 à 10 ans, lorsque vous irez chez votre médecin ou vous irez à l'hôpital pour n'importe quoi, j'espère que ce sera pour quelque chose de bénin, on vous séquencera votre génome. Donc, cela va produire une quantité de données par les machines qui font cela, mais en fait, une fois que c'est analysé, ça ne représente pas grand-chose. Ça représente 3 milliards de paires de bases. 3 milliards de paires de bases, c'est rien du tout. Vous pouvez le mettre dans votre smartphone, vous pouvez le mettre sur une clé USB, c'est rien du tout. En plus, une fois que vous avez votre génome, en fait, ce qui est intéressant, c'est les comparaisons avec un génome, on pourrait dire moyen de base, pour voir qu'est-ce qui est différent. Est-ce que vous êtes porteur d'une maladie? Est-ce que vous avez une propensité peut-être à être moins, capable de métaboliser un certain produit chimique ou un produit alimentaire, et bien tout ça, ça peut encore se restreindre. Et puis finalement, c'est un petit fichier de 20 mégabytes, rien du tout, quoi. Donc, il y a comme ça le big data, et puis après, il y a la connaissance. Et cette connaissance, elle ne représente pas un challenge au niveau informatique, mais elle représente un challenge au niveau sécurité des données, toute la confidentialité des données sur votre génome, sur votre patrimoine génétique. Je pense qu'on va en discuter plus tard, mais c'est donc bon. Là, dans les sciences de la vie, c'est peut-être il y a le big data, mais après, ce qui est important, c'est comment utiliser les connaissances qu'on peut retirer de ce big data, et puis comment en fait ces connaissances appliquées à la médecine vont être utilisées à bon escient.
Est-ce que vous pouvez citer un résultat marquant de vos recherches, un ou deux résultats marquants votre démarche a permis d'aboutir, peut-être en médecine, des applications ou quelque chose, ou une piste pour un médicament?
En fait, bon, ma recherche en tant que telle, non, parce qu'en fait, je suis un peu une sorte d'encyclopédiste des protéines. Donc, je produis une encyclopédie qui est utilisée. D'accord. Par les chercheurs dans le monde entier qui eux-mêmes font des découvertes, mais moi-même j'en fais pas. Donc alors les découvertes de au niveau médical, il y en a chaque jour en utilisant des données sur les causes des maladies génétiques, sur les causes des cancers. Il y a de plus en plus de médicaments. On est maintenant dans une époque où on voit des médicaments arriver. Là aussi, il y a tout un problème du coût de ces médicaments pour guérir certains cancers ou en tout cas pour traiter certains cancers. Et la plupart de ces médicaments ont été maintenant développés grâce aux avancées de la génomique, de la protéomique et de tous les omiques, entre parenthèses. Quoi.
D'accord. Merci beaucoup. Antonin Danalet, je me tourne vers vous. Vous nous avez déjà dit en deux mots le but le thème de votre thèse de doctorat. Quelle est au fond l'utilité finale de ce travail de recherche particulier? que vous faites, c'est-à-dire comment ça s'inscrit dans les problématiques générales de mobilité, le fait de regarder les piétons se déplacer.
Oui, comme vous dites, on se concentre vraiment sur les piétons. Et je dirais qu'il y a 10 ans, on se concentrait beaucoup sur les questions de sécurité, c'est-à-dire comment éviter les grands accidents. On se rappelle par exemple à Duisbourg d'une dizaine de personnes mortes dans un festival. Et là, dans notre laboratoire, on s'oriente plutôt sur des questions de comportements normaux. Et c'est important, comme je le disais tout à l'heure, sur l'exemple de la gare de Lausanne. On pense que d'ici à 2030, il y aura deux fois plus de passagers dans les trains directs entre Lausanne et Genève. Trois fois plus dans les trains régionaux. Ça veut dire que dans la gare de Lausanne, il y aura 2 à 3 fois plus de personnes. Ils vont agrandir cette gare. C'est un investissement de l'ordre de 1 milliard de francs quand même. Donc c'est un investissement de notre argent à tous. Mais on ne sait pas très bien comment les gens se baladent dans cette gare. On ne sait pas ce qu'ils y font, dans quel ordre ils font leurs activités, combien de temps ils passent. Et en fait, en comprenant mieux leur comportement, leur mobilité à l'intérieur de cette gare, eh bien, on peut mieux designer la gare. C'est ça une des finalités possibles. Après, on peut imaginer faire la même chose dans un aéroport, sur un campus, à Paléo, peu importe. Mais c'est de développer des méthodologies pour mieux comprendre les comportements des gens dans des infrastructures piétonnes.
Est-ce qu'il y a un aspect qui vous a particulièrement étonné à l'issue de ces recherches ?
Bon, il y a un vrai problème, c'est que je donne l'exemple de la gare de Lausanne, et en fait, je dois vous avouer qu'on n'a pas étudié les traces Wi-Fi de la gare de Lausanne, parce qu'on n'a pas obtenu l'autorisation. Donc ça, c'est un élément principal, je dirais. C'est que si j'ai demandé au début de ma thèse d'avoir accès à ces données, et 4 ans après, ben, j'ai fini ma thèse, je les attends toujours. Donc ça, c'est effectivement un vrai problème, à mon avis, alors que ces données, elles existent. C'est pas que je vais créer des nouvelles informations. À l'intérieur de toutes les antennes Wi-Fi, ces données, elles existent. J'ai juste pas le droit de les lire. Donc ça, c'est sûr que c'est un problème de base, assez fondamental.
Donc, oui, ben, on aura l'occasion sans doute de revenir là-dessus, parce que c'est un point effectivement très, très intéressant, le point de l'accès aux données. Je me tourne maintenant vers Olivier Ribaud. Alors, on parlait de sécurité, mais ce n'était pas tout à fait la même sécurité dont vous vous occupez. C'est plutôt en rapport avec la criminalité.
Oui, donc, en fait, on a évidemment plusieurs axes de recherche. Donc, je vais parler un petit peu pour mes collègues ici, donc je ne vais pas pouvoir entrer trop dans les détails techniques déjà, parce que je ne suis pas compétent pour le faire, mais je dirais dans les principes, je peux parler un petit peu des axes de recherche, donc qui sont quelques-uns des axes qu'on suit. Alors, le premier concerne finalement un peu notre fonds de commerce, c'est-à-dire ce qui correspond à la discipline elle-même, qu'on appelle aussi la science forensique, la criminalistique, certains l'appellent la police scientifique, qui consiste à rechercher des traces, à les collecter, à les reconnaître, et surtout à les interpréter, et à les interpréter en vue un jour de pouvoir les présenter devant un tribunal. Alors bien sûr, la question de l'interprétation de la trace est en train de changer complètement par la quantité en fait, des informations qu'on a à disposition, et en particulier par le fait qu'on peut obtenir maintenant des études de population, c'est-à-dire comment est-ce que dans la nature les caractéristiques qu'on mesure dans les traces se retrouvent, et ce qui permet en fait de relativiser l'interprétation qu'on peut faire des traces. Par exemple, dans la banque de données actuelle ou dans les extractions de profils ADN qui se font à base des traces, il faut savoir qu'à peu près le 40% de ces profils sont partiels, sont dégradés. C'est le principe même de la trace, c'est d'être imparfaite, d'être fragmentaire, etc. Pour l'ADN, c'est vrai aussi. Donc ça veut dire que l'interprétation de ces traces présente beaucoup d'incertitudes, et il faut être capable de maîtriser cette incertitude, et on peut la maîtriser que si on parle de la rareté des choses, c'est-à-dire comment se répartit dans la nature ces différentes caractéristiques. Et là, on dispose de plus en plus maintenant de banques de données. Alors ça peut être aussi des banques de données, par exemple, on y pense peut-être un peu moins, mais de peinture automobile, par exemple. Voilà. Donc si vous avez un accident, on va retrouver la peinture automobile, puis on va peut-être, on espère, pouvoir déterminer la marque et le modèle de la voiture en fonction de bases de données à disposition. Donc là, les données de population en fait augmentent considérablement. Évidemment, la variété des informations à disposition s'élargit aussi avec les traces numériques, bien entendu. Ce qu'on fait également, ça c'est une autre orientation, bien sûr, la moitié à peu près de nos étudiants vont travailler à la police, en particulier dans les services de police scientifique, mais de plus en plus aussi dans d'autres services qui s'appellent des services d'analyse criminelle. Alors l'analyse criminelle, c'est un domaine qui a démarré une vingtaine d'années avec la construction européenne, en tout cas en Europe, elle a démarré bien avant aux États-Unis, mais en Europe elle a démarré il y a une vingtaine d'années, parce qu'on se posait la question de savoir comment on allait faire coopérer en fait un enquêteur italien avec un enquêteur allemand ou avec un enquêteur français, déjà pour questions culturelles et puis aussi pour des questions simplement de communication, d'échange d'informations, pour se dire eh bien on a tout avantage à mieux exprimer nos méthodes d'enquête, à définir beaucoup mieux les processus, les méthodes de raisonnement, ce qui se faisait très peu parce que la police finalement n'a pas de département de recherche interne qui lui permet d'exprimer les choses, donc beaucoup de choses se font par la pratique et sont non exprimées, sont très implicites, hein. Et il y a eu un gros travail en fait d'expression de ces méthodes de raisonnement qui a été fait dans les années 90. Puis évidemment, ça a donné lieu dans les polices, en particulier dans les polices romandes, à des nouvelles positions, une nouvelle profession, c'est celle d'analyste criminel qui est chargé de traiter les données relatives aux enquêtes particulières. Donc quand il y a beaucoup de données par rapport à un cas particulier, eh bien, on va demander à l'analyste criminel d'aider l'enquêteur à effectuer son travail. Et là, évidemment, cette activité a été complètement boostée dans les années 2000, en particulier par un objet que je vois personne qui le regarde ce soir ici, mais si vous regardez à l'arrêt de bus, il y en a la moitié qui le regarde, c'est-à-dire les smartphones et les téléphones, qui sont devenus des données d'enquête absolument primordiales et pour lesquelles il a fallu définir un certain nombre de processus de traitement pour proposer des traitements solides de l'information. Puis ensuite, à la police, de plus en plus, par rapport aux données qui sont accessibles, on se pose la question de comprendre finalement la criminalité. Et là, on a beaucoup travaillé sur les phénomènes de criminalité répétitive. Il faut savoir que dans beaucoup de phénomènes criminels, ces phénomènes-là sont très, très concentrés. C'est-à-dire que peu d'auteurs font beaucoup de dégâts, que les cas sont très concentrés géographiquement et que finalement, il y a relativement peu de victimes qui attirent toute la misère du monde. Donc, en travaillant sur les répétitions criminelles, on peut espérer développer une connaissance de ces phénomènes qui nous permet après d'adopter, par exemple, des plans de prévention, etc. Donc, la police est aussi devenue, dans l'état d'esprit, probablement, à ajouter une composante, aussi par ces nouveaux modèles policiers, beaucoup plus préventive et proactive dans ces modèles, et pour lequel, évidemment, il faut définir des méthodes de traitement de l'information. Et là, on a travaillé, alors ce n'est pas du grand big data, évidemment, mais on a travaillé quand même sur les phénomènes de cambriolage, notamment on travaille beaucoup sur, en collaboration avec un système de renseignement roman qui vise à suivre en temps réel, c'est-à-dire au quotidien, les phénomènes de cambriolage, détecter les séries, etc. Dire les Anglais, ils appelaient ça high volume crime, hein, donc on était presque dans le big data, mais ça fait que quelques dizaines de milliers de cas, heureusement d'ailleurs, hein, ça fait que quelques dizaines, voire centaines de milliers de cas qu'il y a dans cette base de données. Et l'axe suivant, alors il est en prolongement à celui-ci, c'est un axe beaucoup plus criminologique, je dirais, c'est-à-dire d'études de certaines formes de criminalité et de la réaction qu'on peut avoir par rapport à ces formes de criminalité. Et là, ce qu'on fait actuellement, c'est qu'on s'intéresse beaucoup, c'est un petit peu historique aussi, un peu par opportunité, au marché illicite. Et là, on s'intéresse notamment aux questions de contrefaçon, puisqu'on est en Suisse, on s'intéresse beaucoup aux questions de contrefaçon de montres, notamment, mais aussi de contrefaçon de médicaments. On s'intéresse au marché de dopage, par exemple. Et là, évidemment, on va essayer d'adopter des démarches aussi interdisciplinaires que possible, c'est-à-dire de lier différents types de données, différents types de méthodologies aussi, certaines qui sont plus d'origine de criminologique et de sens social. Alors, je vous donne l'exemple, par exemple, des stupéfiants. Vous avez certainement entendu parler dernièrement d'une série des travaux qu'on a fait à Lausanne. Ça concernait l'analyse des eaux usées. Donc, actuellement, on travaille beaucoup sur les eaux usées, c'est-à-dire qu'on essaye de déterminer la consommation de certains types de stupéfiants au travers des eaux usées. Si je me permets, Neuchâtel n'est pas sorti grand vainqueur sur les drogues de synthèse, hein, par rapport aux mesures qui ont été faites. Donc, afin d'avoir un élément objectif sur la consommation, mais ces données-là, évidemment, en tant que telle, elle nécessite d'être croisée avec d'autres données, notamment des données de sondage sur les consommations. Elle nécessite d'être croisée aussi avec des données d'enquête sur les enquêtes en fait, qui concernent le trafic de stupéfiants et aussi sur une base de données qu'on a, parce qu'on a un service d'expertise aussi qui analyse de manière très systématique les stupéfiants saisis en rue et qui en extrait les profils et qui essaie de tirer des liens entre les différentes saisies qui sont effectuées. Donc là aussi, ça fait un jeu de données particulier. Donc la démarche ici se veut extrêmement interdisciplinaire avec différents moyens finalement de regarder, de voir ces données et de manière à avoir une vision aussi multifacette que possible des phénomènes qu'on étudie et notamment de ne pas isoler finalement une composante internet, notamment la vente de stupéfiants sur le darknet, mais au contraire de prendre le matériel qu'il y a derrière et puis de combiner ensuite l'aspect physique, l'aspect chimique avec l'aspect virtuel des différents éléments qu'on a.
D'accord, vaste programme. Tout aussi vaste est sans doute le programme du Centre de compétences Big Data de l'Université de Neuchâtel. dont nous avons les deux têtes pensantes, si j'ose dire, ici présentes à notre table des intervenants, donc Pascal Felber et Kilian Stoffel. Je ne sais pas qui des deux voudrait commencer, peut-être Pascal Felber. Voilà, ben, dites-nous un peu ce qui a amené à la naissance de ce centre de compétences Big Data et quelles sont les caractéristiques de votre groupe de recherche dans ce cadre-là.
La création de ce centre, c'est venu d'une constatation, c'est qu'on avait un certain nombre de compétences à l'université dans le traitement des grandes masses de données et un certain nombre d'utilisateurs aussi, des scientifiques ou des personnes qui venaient, ce que j'appellerais du monde applicatif, qui avaient un intérêt à traiter ces big data et les exploiter. Et là, je vais revenir un peu sur un point qu'il faudrait clarifier. Il y a vraiment deux aspects dans les big data. Il y a un aspect informatique, technique, scientifique que je représente. Comment est-ce qu'on peut gérer ces grandes masses de données? Comment est-ce qu'on peut avoir les capacités pour les analyser, les traiter, faire des calculs? Alors, généralement, on parle, dans le contexte de big data, des 3 V. On parle du volume, donc c'est des grandes données. On parle de vélocité, c'est souvent des données qui évoluent avec le temps. Par exemple, on pense aux messages, aux SMS, aux textos, aux emails, aux tweets. C'est des choses qui arrivent avec une fréquence assez élevée, qu'il faut être capable de traiter. Et il y a une nouvelle composante qui est très importante, c'est la variété. Alors, on a des données qui viennent de différentes sources. Je pense, par exemple, dans le monde criminel, on a des bases de données qui regroupent peut-être des cambriolages, avec des entrées sur le territoire, avec des accidents de trafic ou je sais quoi, qu'il va falloir corréler ensemble pour arriver à donner un sens. Alors, ça, c'est les aspects techniques. De l'autre côté, il y a les aspects applicatifs. Les aspects applicatifs, c'est la médecine, c'est le transport, c'est justement la police. C'est des personnes qui, pour nous, représentent des utilisateurs des technologies. Alors, on a dans ce centre de compétences à la fois des personnes qui sont capables de justement gérer la technique, l'informatique, et on a des personnes qui sont intéressées à utiliser ces mécanismes qu'on leur fournit afin de les exploiter. Donc ça, c'est un petit peu, l'aspect qui a donné naissance à ce centre sur les big data. Et une des choses qui nous intéresse beaucoup dans le contexte des big data, c'est tout l'aspect sécuritaire. Donc on va en reparler certainement par la suite. Mais un des grands problèmes, c'est que lorsqu'on veut mettre des données quelque part dans une base de données, et que cette base de données, elle n'est plus sous notre contrôle, les données, une fois qu'elles sont à l'extérieur, on n'arrive plus à les récupérer. C'est-à-dire, une fois qu'elles sont publiques, elles sont publiques. Et un des grands problèmes, c'est comment est-ce qu'on peut assurer un minimum de sécurité, ou en tout cas de vie privée ou d'anonymité, dans les données qu'on génère, soit à dessein, soit malgré nous. Par exemple, lorsqu'on envoie un message email, on n'a plus aucun contrôle dessus. Il y a de fortes chances qu'il soit stocké sur un serveur, probablement aux États-Unis, et si quelqu'un a vraiment envie d'y accéder, il va y arriver. Donc on a cette problématique, comment est-ce qu'on peut contrôler les données qu'on génère de manière à ce qu'elles ne soient pas exploitées ou pas exploitables dans le contexte du big data.
D'accord. Alors enfin, Kilian Stoffel, est-ce que vous pouvez ajouter quelque chose? Oui, enchaîner. Ouais, alors, je sais pas au si niveau Pascal... des sciences économiques, justement.
Voilà, c'est ça. Je ne sais pas si Pascal a fait exprès, il a parlé de 3 V. Il y a d'autres qui parlent de 5 V. Il a oublié les deux qui m'intéressent particulièrement. Alors... Alors, il a parlé de vitesse, volume et variété de données, mais il y a encore la véracité, est-ce que ces données sont vraies, et la valeur de ces données-là. C'est deux autres aspects qui sont dans les domaines des applications en dehors de la technologie assez importants. Et ça, c'est ces deux domaines-là qui sont assez intéressants de notre côté, ce qui est une partie qui nous intéresse beaucoup au niveau de la recherche. La première partie, c'est qu'est-ce qui est finalement vrai dans une telle masse de données. C'est-à-dire, même si on a des zettabytes et des petabytes et tout ça, on extrait quelque chose, est-ce que c'est vrai ou pas? On ne sait pas grand-chose sur ça. Et ce qui est assez étonnant, c'est que tous les outils qu'on a acceptés dans le passé, qui étaient largement acceptés comme des outils d'analyse de données, comme tous les mécanismes statistiques et tout ça, ils ne fonctionnent plus. Ils ne veulent tout simplement plus rien dire sur cette base-là. Et il faut trouver d'autres mécanismes pour analyser cette partie ce volume de données. Et souvent, ces méthodes sont inspirées par des méthodes d'apprentissage. Alors, on essaie d'apprendre à partir de ces exemples de données quelque chose et on simule des processus d'apprentissage. Alors, pour pour un prof, c'est assez intéressant parce que c'est directement lié à l'enseignement. Alors, on essaie de simuler le processus d'apprentissage et d'enseignement pour apprendre quelque chose. Et la deuxième partie qui est très importante, ce qui manque un petit peu aussi dans la définition de ce qui est trouvé, très succincte, mais le problème, c'est que vous pouvez trouver tout ce que vous voulez dans ces données-là. Mais finalement, si vous avez trouvé quelque chose, même si c'est vrai, est-ce que ça a une valeur? Et ça, c'est le grand, grand problème si on prend cette partie-là à côté analyse de données. Alors, il y avait une immense enquête qui était faite pour voir qu'est-ce qui est la donnée économique la meilleure, le mieux corrélée avec le prix du dollar. Et ce qui était trouvé, c'était le prix du beurre à Bangladesh. Alors, je ne sais pas si une information est de grande valeur. Vous pouvez montrer que c'est juste par rapport aux données, mais qu'est-ce que vous allez faire là? Si vous montez le prix du beurre à Bangladesh, le dollar ne va pas monter, alors ça on sait. Alors, on ne peut pas agir sur ces données. Et ça, c'est exactement les aspects qui nous intéressent. Alors, comment est-ce qu'on peut vraiment convaincre les gens que ce qu'on a trouvé est vrai? Et deuxièmement, comment est-ce qu'on peut être sûr que ce qu'on a trouvé a vraiment une valeur réelle et ce n'est pas complètement sans valeur? Voilà.
Merci beaucoup. Donc, la parole est à la salle. Hein. Si déjà vous avez des questions, vous pouvez intervenir. Hein. Ce café est le vôtre. Oui. Il faut juste attendre le micro parce qu'on enregistre pour nos archives sur Internet. Voilà. Des traces.
David Olivier, sonore. Jacques Schiffel. J'ai une question pour M. Stoffel. Vous parlez donc de véracité d'une information ou d'une conclusion que vous tirez, en fait. Donc pour déterminer la véracité de la conclusion, il faut d'une certaine manière pouvoir croiser cette information, avoir des critères qui permettent de prendre la décision. Comment est-ce qu'on définit, en fait, qu'une information est vraie? Est-ce qu'on parle d'authenticité, d'intégrité? Qu'est-ce que ça signifie, finalement, être vrai?
Ben, je crois que c'est exactement ça. Qu'est-ce que ça signifie? C'est la définition. Elle est bonne parce que c'est très individuel. Alors, juste pour vous donner peut-être deux exemples, si vous imaginez, vous faites une campagne publicitaire, alors à la limite, ce qui est vrai pour vous, c'est ce qui compte pour la majorité de vos clients. Vous n'allez pas faire une campagne publicitaire qui intéresse 1 pour 1 000 de vos clients. Alors là, ce qu'on veut trouver, on peut dire finalement une information est vraie et utilisable, c'est si on a une certaine garantie qu'elle s'applique à beaucoup de personnes. Alors c'est une manière de voir ça. Maintenant, si c'est 31 ou 32% ou 30%, ce n'est pas très important, mais le volume est suffisamment important. Et il y a d'autres domaines où ça change complètement. Alors on parle sécurité ou santé, c'est des domaines qu'on a travaillés. Là, ça change, mais complètement. Si vous imaginez, vous êtes dans le domaine de la santé. Alors là, un truc qui est assez intéressant, ce qui s'est passé dans pas très lointain dans le passé, c'est l'Ebola, par exemple. Vous voyez toutes ces personnes débarquer sur l'aéroport et il faut décider, est-ce que ça, c'est une personne qui a simplement une grippe ou est-ce que la personne a effectivement Ebola? Alors là, c'est pas, vous aimeriez plutôt minimiser, vous aimeriez gêner le moins de personnes possible, mais à tout prix, vous voulez éviter d'oublier la personne qui a, disons, Ebola dans ce cas-là. Vous pouvez vous imaginer dans le cas de terrorisme, c'est exactement la même chose. Et c'est un petit peu les trucs qui nous intéressent, nous particulièrement, c'est de trouver vraiment la petite exception, le truc qui est très rare. C'est pour ça, médecine et sécurité, même si ça, comme ça, ça a l'air d'être quelque chose complètement différent, on a un petit peu les mêmes définitions de qu'est-ce qui est vrai. Et je dirais, dans ce domaine-là, ce qui change fondamentalement par rapport à statistiques, vous ne pouvez pas répéter l'expérience. Si vous imaginez un terrorisme, voilà. S'il entre dans l'avion explosé, vous dire je vais refaire l'expérience, je vais le choper, ça ne sert pas à grand-chose. Alors vous êtes obligé de garantir la qualité ou la véracité d'un tel système et mesurer par la sécurité avec laquelle vous trouvez exactement cet événement-là. Par rapport au système statistique, où vous pouvez éventuellement répéter l'expérience, où c'est vrai dans une grande majorité des cas. Alors là, c'est comme vous avez mentionné vous-même, chaque fois la définition, qu'est-ce qui est vrai, change avec le domaine d'application que vous avez.
Est-ce qu'il y a une autre réaction, commentaire, question? Oui. Ah. Ah, non, j'ai cru qu'il y avait une. Ah, oui, oui, ici. Je vous donne le micro.
Merci. Bonsoir. En fait, les gens autour de nous, ils ont encore pas mal peur du big data. Et est-ce que vous arriveriez à définir pourquoi ? Parce qu'au fond, la collecte de données qui est faite de manière globale, c'est jamais des informations très sensibles, c'est juste des habitudes de consommation et des choses comme ça. Donc est-ce que vous arriveriez à dire pourquoi au fond le monde a peur du big data ?
Alors, ouais, mais justement, vous étiez confronté directement à ce problème, je pense.
C'est pas super évident de répondre à cette question. Si on prend l'exemple des grands opérateurs qui ont accès à un certain nombre de données, comme Swisscom ou les CFF, ils ont vraiment peur pour leur image. Et la peur de ces entreprises-là, en tout cas, pour l'expérience que j'en ai eue, c'est pas forcément la peur qu'il y ait une vraie faille de sécurité. C'est-à-dire, la peur, c'est pas que j'utilise à mauvais escient ces données. La peur, c'est qu'il y ait une mauvaise compréhension par le public de ce que j'en fais. C'est-à-dire que la peur qu'ils ont concrètement, c'est qu'il y ait une première page du matin avec un fond noir, avec un titre un peu choc, qui dit « Les PFL vous espionnent à la gare de Lausanne ». Parce que finalement, les gens vont mémoriser ça. Et ça, en termes d'image, c'est extrêmement négatif pour eux. Après, en termes de risque réel, par exemple, pour les informations à l'intérieur des antennes Wi-Fi de la gare de Lausanne, à mon avis, le risque réel est très très faible. Mais le risque en termes d'image est plus élevé. Parce que les gens vont peut-être confondre... la localisation à partir des antennes de téléphonie mobile et voir tout ce qu'il y a dans le téléphone, qui est effectivement très privé. Mais savoir où on se trouve de manière anonyme, donc, c'est-à-dire savoir où quelqu'un se trouve, mais sans connaître son nom, à l'intérieur d'un lieu public, ce n'est pas une donnée qui est, pour moi, de mon point de vue, c'est très personnel, sensible.
Est-ce que vous pouvez préciser, en fait, à quel échelon vous êtes heurté à des problèmes à des problèmes d'accès à des données? C'est à quel niveau? C'est au niveau des entreprises? C'est au niveau des personnes? Comment ça s'est passé?
Bon, au niveau des personnes, si vous donnez le choix aux individus, oui, la réponse elle est entre les deux. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des gens qui vont accepter d'être traqués. Et ça s'est fait dans plusieurs projets de recherche. Et d'autres qui vont refuser. Ça, c'est le choix individuel. Par contre, les entreprises vont très, très, très régulièrement refuser pour ces problèmes d'image, plutôt. Ça, c'est un autre problème. Et puis, dans le monde scientifique, je pense qu'il y a un troisième problème. Donc, il y a le problème individuel. L'individu peut choisir ou non de partager ses données. Ça, c'est un choix individuel qu'on ne peut pas vraiment juger. Il y a l'entreprise pour des questions d'image. Et puis, dans le monde scientifique, il me semble... qu'il y a de plus en plus une compétition pour l'accès aux données plutôt qu'une compétition sur les méthodologies de travail. Je ne sais pas si ça existe dans les autres domaines aussi.
Amos Berroc.
Je voulais juste dire aussi au niveau des données, le danger, par exemple, de partager certaines données. Alors, au niveau médical, il est certain. C'est-à-dire, si une fois que tout le monde aura son génome à disposition, si vous le distribuez, vous pouvez vous dire, c'est égal, je le distribue, je le mets à disposition, je le mets sur Facebook... Et vous pouvez vous dire, ça n'a aucune importance, c'est des données qui ne sont pas utiles. Mais en fait, il y a beaucoup de choses qu'on peut analyser à partir de là. Ça peut avoir des conséquences au niveau des assurances, au niveau de votre employeur qui peut décider que vous avez un risque plus grand d'avoir peut-être l'Alzheimer à telle et telle année. Ils ne vont pas prendre peut-être le risque de vous engager. Enfin, il y a plein de choses qui risquent d'être de dérives si ces données sont mises à disposition de tout le monde. Et ce qu'on ne pense pas non plus, c'est que si vous donnez, par exemple, vous faites séquencer votre génome, vous donnez pas seulement l'information sur votre génome, mais d'une certaine manière, vous donnez l'information sur vos enfants, sur vos frères, vos sœurs, vos parents. Et en fait, ce n'est pas seulement votre responsabilité de dire « mon génome, je le donne », c'est en fait, vous faites une sorte finalement, vous broadcastez des données qui sont en fait de votre patrimoine génétique, de votre famille, et qui pourraient avoir un impact sur votre frère, votre sœur ou vos enfants, plus tard. Donc là, il y a tout plein de choses qui doivent être définies sur ces données médicales et qui ne sont pas encore très bien définies. Et le problème, c'est que les technologies vont beaucoup plus vite que la législation, l'éthique et tout ce qui va autour. Et donc, il y a un gros problème au niveau du partage des données médicales.
Olivier Rigaud.
Oui, bon, des risques, il y en a vu dans beaucoup, mais le débat va virer vers le pas si bas de le big data, là, il est vraiment bas de le big data. Mais bon, un des risques alors que sur lesquels on travaille beaucoup, puis mon collègue David Olivier, Jacques Schiffel, qui est ici dans la salle, travaille sur ces questions-là, c'est aussi le vol d'identité. Quoi. C'est pas drôle de se faire voler son identité. Et effectivement, par rapport à l'utilisation en fait des données, notamment des données virtuelles, on a là une problématique vraiment très 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 sérieuse. Et qui n'est pas du tout évidente à aborder. Quoi. Ouais. Mais il y en a d'autres.
Oui, ajoutez.
Un des problèmes également pour l'individu, des données qu'on donne, disons, qu'on met à disposition, c'est que souvent, on ne sait pas comment elles seront utilisées. Et puis, des informations qu'on pense être anodines, finalement, si elles sont corrélées avec d'autres informations qui viennent d'autres sources, vont permettre de reconstruire beaucoup de choses. Par exemple, quelqu'un pourrait savoir dans quel pays j'étais, à quelle date, ce que j'ai acheté, le nombre de téléphones que j'ai fait, ce genre de choses qui peuvent être utilisées, par exemple, pour le vol d'identité. Et ce genre de choses, ça ouvre la porte à des dérives pour la personne qui a accès à des ressources permettant de corréler ces données qui, individuellement, peut-être, ne sont pas dangereuses, mais qui, mises ensemble, permettent de reconstruire énormément d'informations sur les individus.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Moi, j'aimerais un peu approfondir dans ce sens sur les données qui sont mises à disposition. Vous, les uns les autres, vous pouvez dire... avec quel type de données vous travaillez ? Est-ce que vous travaillez avec des données privées, avec des données publiques ? Comment est-ce que ça se passe pour chacun d'entre vous ? Je ne sais pas qui veut commencer. Peut-être Monsieur Danalet ?
Bon, si on prend l'exemple des données Wi-Fi des antennes de cette université. Donc vous êtes tous là dans la salle. Je pense que 80% d'entre vous, vous avez un téléphone avec le Wi-Fi allumé dans la salle. Donc, ces données vont être enregistrées. Est-ce qu'elles sont publiques ou privées ? Moi, je n'ai absolument pas la réponse. Moi, ce que je sais, c'est que j'ai demandé à mon université et les PFL de me donner accès à ces données, ce qui a été relativement facile à obtenir, plus facile en tout cas que pour les CFF, je peux vous dire. Et au niveau de la commission d'éthique, puisque à un moment donné, il faut passer par la commission d'éthique quand on collecte des données sur des individus, la seule règle, alors on pourrait s'imaginer qu'ils vont vous tomber dessus et dire que c'est très privé, et la seule règle, c'était de cacher l'identifiant unique de l'individu. Vous parliez de recouper les données. Chaque téléphone a une identité et donc on peut regrouper ça avec une antenne Wi-Fi de Bangkok où on sait que vous seriez à la gare de Lausanne et à Bangkok à 2 mois d'intervalle. Par contre, une fois que cette donnée est effacée, c'est un peu plus difficile. Ce n'est pas impossible, mais c'est plus difficile. Et pour moi, dans mon cas, je ne peux pas répondre à votre question publique-privée. Mais je peux vous répondre à quelles étaient les données. C'était les données des antennes telles quelles, d'accord, moins l'identité du téléphone.
Donc il y a une idée d'anonymiser les données, oui, là derrière. Oui. Est-ce que...
Je vais peut-être continuer sur cette question de l'anonymisation. Dans notre domaine, en informatique, on n'est pas tellement intéressé par la nature des données, mais on est intéressé par le fait qu'elles soient représentatives d'un domaine applicatif. Ça veut dire qu'on va prendre plutôt des données publiques, des grandes masses de données publiques, ou alors des données qui sont privées, mais anonymisées, mais qui ont les mêmes propriétés qu'auraient des vraies données dans représentant une vraie base de données ou une vraie population. Donc finalement, on évite la problématique de l'accès aux données privé, ce qui est quasiment impossible à obtenir. Si on pense aux grands acteurs du big data, Google, Amazon, il n'y a aucune chance qu'ils soient d'accord de partager leurs données avec des chercheurs, même si on n'a aucun intérêt à les exploiter de manière commerciale. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on botte en touche en prenant justement des données publiques ou des données qui sont anonymisées, statistiquement représentatives des vraies données.
Olivier Ribaud, vous voulez ajouter quelque chose sur cet aspect d'origine des données ?
Dans l'origine de données, on préfère souvent la distinction plutôt que public-privé, enfin, deuxième niveau de distinction, mais ouverte et fermée. Quoi. Donc effectivement, on peut travailler aussi déjà beaucoup avec des sources ouvertes, c'est-à-dire sur l'Internet, etc. Et puis les sources fermées, c'est-à-dire celles qui sont soit public ou de l'administration ou de la police pour ce qui est notre cas. Alors évidemment, nous, la ligne rouge, c'est l'identité, hein, ça on en a parlé avant, donc évidemment l'anonymisation, ça c'est la ligne rouge. On parlait tout à l'heure de la chasse aux données, ben, je pense que c'est une vraie réalité, je crois, dans le milieu universitaire. Et c'est assez étonnant parce que, le mérite finalement d'accéder à des bonnes données, à des données qui vont parler, à des données qui sont pertinentes par rapport aux problèmes qui sont posés, mais finalement, je trouve en tout cas, pas véritablement académiquement valorisé. On préférera justement des modèles d'interprétation, d'utilisation des données. Finalement, les données, oui, il les a eues, c'est très bien, bravo. Puis en fait, derrière, il y a des armées de gens en fait, qui vont effectivement acquérir ces données, qui font d'immenses efforts pour ça. Et puis, ce n'est pas toujours des efforts simples, parce qu'il faut avoir des données évidemment pertinentes, donc on ne va pas prendre n'importe quelle donnée ou n'importe quel jeu de données. Des fois, on ne sait pas ce qu'il y a derrière ces données, donc on va demander des données, mais on ne sait pas trop ce qu'il y a, donc on part vers l'inconnu dans certaines recherches. Disons pour nous particulièrement, c'est clair qu'on a un certain nombre de partenaires assez traditionnels, donc il y a aussi une question de confiance, une question de formalisme aussi dans l'accès à ces informations, donc on a des processus très formels qui nous permettent de passer et de faire des demandes de données auprès de nos partenaires et puis qui sont vérifiées ensuite du point de vue juridique pour voir si effectivement on peut les obtenir ou pas, des conditions d'utilisation qui sont aussi déterminées, mais je dirais l'accès, contrairement à ce que vous pensez, il est relativement ouvert, de nouveau, pour traiter de questions plutôt statistiques, etc. De nouveau, la question qui tue, je dirais, c'est toujours la question d'identité. Est-ce qu'on est capable d'identifier les gens au travers de nos publications, au travers des données qui sont utilisées. Donc là aussi, c'est l'anonymisation qui est prioritaire. C'est aussi peut-être de traiter des données de manière déconnectée du net. C'est ce qu'on fait donc, quand on a des travaux de master ou des travaux de recherche qu'on fait avec les étudiants, avec des données dont on ne veut pas qu'elles partent n'importe où. Ben voilà, on dit à l'étudiant, tu vas dans cette salle, c'est sur ce portable, et puis on reste complètement déconnecté, des choses comme ça. Quoi. Voilà.
Oui, vous voulez compléter quelque chose ? Oui. Est-ce qu'il y a une réaction à ce stade dans la salle ? Oui, monsieur.
Oui, peut-être une remarque sur... On se pose la question, est-ce que je suis d'accord de donner mes données ou pas et pourquoi on le fait ? Maintenant, on se rend compte de plus en plus qu'on peut donner des données à un moment donné en pensant, ben voilà, on peut faire ça avec mes informations et puis on va ressortir ces informations dans 10 ou 15 ans parce qu'il y a eu des améliorations dans les processus ou dans les techniques et puis on va pouvoir en tirer d'autres choses. On a le dopage où on ressort du congélateur des échantillons d'il y a 15 ans pour faire des analyses qu'on n'arrivait pas à faire à l'époque. Et puis on dit Google, tout ça ne va pas livrer de données. Il y a certains fabricants de ces fameux bracelets qui vous prennent le rythme cardiaque et tout. En France, le plus grand fabricant vient d'ouvrir un institut de santé qui va servir à partager les informations des utilisateurs avec les pouvoirs publics et avec les chercheurs qui sont intéressés à avoir accès à ces informations. Parce qu'eux vont dire, ben, si vous voulez savoir est-ce que la population française prend de plus en plus de poids ou pas, ben, c'est par nous que vous avez des informations, plutôt que passer par les médecins ou par les hôpitaux. Parce que ces données, elles sont déjà agrégées, puis elles sont déjà disponibles. Donc j'accepte de donner des données à un moment donné, et puis finalement, dans 10 ans, je vais me rendre compte que mes données, elles ont été utilisées encore pour autre chose. Donc je ne sais pas comment on peut faire pour éviter ça, si c'est possible.
Peut-être une petite boutade par rapport au dopage. Donc, vous avez vu que le laboratoire de Lausanne a justement eu quelques petits problèmes ces derniers temps pour avoir détruit des échantillons et que ça pose, voilà, exactement les problèmes inverses. Quoi. Mais c'est clair que, bon, là, moi je ne suis pas juriste du tout, hein, mais la vraie question qui est posée derrière, André, tu me contredis si je dis faux, mais le vrai problème qu'il y a derrière, c'est la question du droit à l'oubli. Et celle-là aujourd'hui par l'internet effectivement et par le traitement des données, je ne suis pas sûr qu'il est effectivement garanti quoi. Mais c'est une des vraies questions aujourd'hui qui je crois est débattue dans les milieux juridiques de manière assez offensive. Enfin, je ne sais pas si André tu veux
Moi j'ai juste une petite idée à lancer comme ça sur votre question, je ne suis pas du tout juriste non plus. Mais il y a 10 ans, on parlait beaucoup de questions de partage de droits d'auteur sur Internet. Et puis, c'était très compliqué de savoir, parce que d'un côté, on avait ces gros opérateurs culturels qui voulaient bloquer vraiment leurs droits d'auteur, et d'autres qui avaient envie de pouvoir partager leurs connaissances le plus librement possible.
Et puis quelque chose qui est apparu, c'est les Creative Commons. Donc c'est ces licences très simples à lire, c'est-à-dire que ce n'est pas des contrats illisibles, mais c'est des petites images comme ça qui disent qu'est-ce que vous avez le droit de partager ou pas. Donc vous prenez une image que vous avez générée, par exemple une photo, et vous la mettez sur Flickr, qui est un des services de partage sur Internet. Et aujourd'hui, vous pouvez choisir dans une liste relativement longue si vous voulez le partager pour des usages commerciaux, si vous avez, on a le droit de la réutiliser et de la modifier, etc., ou si elle est complètement bloquée et privée. Et donc, on a ces petites icônes qui s'appellent les Creative Commons, qui est une fondation qui a créé ça. Et je me demande si pour le Big Data et pour toutes ces questions de partage des données, on ne pourrait pas proposer quelque chose comme ça. Parce qu'actuellement, à la gare de Lausanne, pour reprendre le Wi-Fi, quand vous utilisez le Wi-Fi, vous acceptez un contrat. Un contrat qui n'est absolument pas lisible par 99% de la population. Si on crée à l'international un système de petits logos simples à comprendre avec les idées principales, c'est-à-dire combien d'années c'est gardé, pour quelle utilisation, est-ce que c'est que pour le bien public? Parce que moi, c'est ce que je veux faire, c'est simplement améliorer les infrastructures de transport. Donc, finalement, pourquoi pas? Ça fait depuis 1950 que l'OFS collecte des données sur la mobilité des Suisses. Donc, ce n'est pas nouveau, hein, finalement, de collecter des données sur les gens. C'est presque même la définition de la recherche quantitative. Mais si on avait cette lecture facile quand on partage des données de qu'est-ce qui va être fait avec, ben, peut-être que les gens seraient moins inquiets à l'idée de partager leurs données.
Oui, en même temps, je vais donner une anecdote qui date d'il y a plus de 50 ans, en fait, et qui est intéressante justement par rapport au partage des données. Il y a, dans les années 50, un médecin aux États-Unis a prélevé des cellules chez une patiente qui était en train de mourir d'un cancer des ovaires. Et puis, il a fait ce qu'on appelle une lignée cellulaire, qui s'appelle ELA, qui est utilisée dans toute la recherche médicale dans le monde entier. C'est la lignée cellulaire, c'est donc une cellule qui, cancéreuse, qui est immortelle, qui peut être utilisée dans un labo, vous pouvez la faire pousser, et donc elle est utilisée dans des laboratoires du monde entier. Bon, pas de problème, c'est utilisé pour vraiment la recherche, il n'y avait pas de problème éthique à l'époque, il n'y avait pas besoin même de demander le consentement à un patient dans les années 50. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, cette lignée cellulaire, maintenant, la séquence de son génome a été obtenue parce qu'elle est absolument utile pour tous les chercheurs de savoir de quoi est constitué ce génome. Le problème, c'est que de tout d'un coup, la famille de cette femme s'est rendue compte on avait mis à disposition de tout le monde le patrimoine génétique de leur grand-mère. Que faire à ce moment-là? C'est quelque chose. À l'époque, c'était une lignée cellulaire. Personne ne pouvait imaginer que 50 ans plus tard, peut-être les petits-enfants de cette dame qui est morte et enterrée depuis 50 ans ont des données sur leur patrimoine génétique qui est maintenant disponible à cause d'un acte chirurgical et qui était totalement anodin et qui était absolument éthique d'utiliser ça pour la recherche médicale. Il n'y avait pas de problème, mais se pose ce problème-là. Et je pense que ce soit en créatif, même si on aurait mis un label à cette époque ou n'importe quoi et tout, on peut pas. Le problème, c'est d'imaginer à quoi vont servir ces données longtemps après. On n'est pas capable, je pense, de penser à toutes les vicissitudes de ces données et l'utilisation qu'elles vont être, dont elles vont être faites plus tard.
Mais juste quand même pour revenir, par rapport à cette femme en 1950 qui a donné aucun consentement, si elle avait pu donner des petits logos et dire dans 5 ans je veux que mes données soient effacées ou je veux les utiliser que pour un usage de recherche ou uniquement, ou par exemple j'accepte qu'elles soient utilisées commercialement, c'est quand même une amélioration.
Ça a été fait plus tard, le consentement, mais même avec le consentement, c'était les consentements et puis les licences comme et tout dépendent aussi de qu'est-ce qu'on dit dedans. Si on dit c'est pour la recherche médicale, c'est toujours pour la recherche médicale. On ne pouvait pas imaginer qu'on puisse, à partir de là, avoir le patrimoine génétique de cette personne. C'était quelque chose qui était inimaginable. Donc je pense que maintenant, on pourrait très bien dire ces données peuvent être utilisées pour tel et tel, par exemple les données Wi-Fi de la gare de Lausanne, pour tel et tel type d'analyse, tel et tel type d'utilisation, et que dans 15 ou 20 ans, ces données-là vont être utilisées pour des perspectives qui ne sont peut-être pas celles qui auraient été concevables à l'époque où la licence a été faite.
Est-ce qu'il y a des réactions? Oui, madame. Non? Oui.
Alors, il ne s'agit pas d'une réaction sur ce qui se passe, c'est une autre question. Alors, je peux attendre qu'on puisse poser de nouveau des questions.
Allez-y, allez-y.
D'accord. Ma question concerne les applications Aujourd'hui, toute personne qui a un smartphone, généralement, utilise des applications. Et souvent, il y a des conditions générales qui nous sont imposées pour pouvoir utiliser certaines applications. On est obligé d'accepter d'être localisé. Sinon, on ne peut juste, tout simplement pas valider cette application et l'utiliser. Alors, ma question, elle est peut-être triple, hein, mais on va essayer de résumer. C'est premièrement, quelles sont les implications d'une telle acceptation par la personne qui accepte d'utiliser telle application, et en somme, nos données sont utilisées malgré nous, quelque part, même si nous avons accepté. Deuxièmement, quelles sont les implications économiques éventuellement? Et enfin, sur le plan européen, par exemple, est-ce qu'il y a une sorte d'harmonisation des données, d'utilisation des données personnelles en Europe avec la Suisse? Voilà, c'est un peu ça mon interrogation par rapport à ces applications et aux conditions générales.
Oui, je résumerai ça aussi, c'est qu'on est, comme utilisateur, on est un peu pris sous une forme de chantage quelque part. C'est-à-dire, on donne nos données, ou on se passe de l'application en question.
Alors, moi, je peux répondre juste sur le point de vue, du point de vue technique, pas du point de vue légal ou harmonisation. Évidemment, les conditions d'utilisation de ces données, c'est écrit dans les termes, lorsque vous cliquez « j'accepte », il faut lire une dizaine ou une vingtaine de pages, souvent c'est même pas en français, pour des raisons que j'ai de la peine à expliquer. Les applications qu'on arrive à obtenir en Suisse sont généralement uniquement en allemand, parfois en anglais. Donc il faut accepter, et si vous acceptez pas, ben vous n'avez pas l'application. Alors ensuite, c'est une question qu'il faut vous poser. Est-ce que vous avez un intérêt à utiliser cette application? C'est du partage. Par exemple, prenons les applications de navigation. Si vous prenez Google Maps ou une application de navigation pour votre voiture sur un smartphone, ces applications sont très précises. Maintenant, elles vous disent, si vous allez du point A au point B, elles vont vous dire, attention, ça prendra 14 minutes, il y a des bouchons ici. Et puis 10 minutes après, elles vous diront, il n'y a plus de bouchons. Ça fonctionne par la participation d'un grand nombre d'utilisateurs qui vont utiliser la même application, qui vont communiquer par rapport à leur temps de transit. Et vous aurez des informations extrêmement à jour. Si c'est quelque chose auquel vous tenez, vous devez être prêt à partager vos informations. Donc c'est du win-win. Si par contre vous en fichez d'avoir cette précision, ben vous acceptez pas l'application pour une autre application qui n'a pas cette précision. Si vous allez à la Migros et que vous acceptez les conditions d'utilisation de M-Cumulus et que vous êtes prêt à donner des statistiques sur ce que vous achetez quand vous l'achetez, vous aurez un petit peu un pourcentage ou des bons d'achat à la fin de l'année. Il y a des personnes qui ne veulent pas qu'on sache ce qu'ils ont acheté, donc ils n'acceptent pas de prendre le MQLUS, ils ne la passent pas à la caisse. D'autres personnes le font parce qu'elles ont un intérêt à avoir ce bon d'achat, sachant qu'on s'expose à une collecte de données, une utilisation qui sera peut-être pas, j'espère qu'elle est éthique, mais en tout cas on aura des publicités ciblées. Donc c'est vraiment une question de perspective. Est-ce qu'on a besoin de cette avantage ou pas? Du point de vue juridique et légal, je ne connais pas le système d'harmonisation, mais je peux imaginer que c'est quelque chose qui est discuté à différents niveaux des États, qu'il doit y avoir une harmonisation qui soit est en cours, soit est déjà en place, mais je ne connais pas vraiment les détails.
D'accord, merci. Alors, on a répondu dans la mesure de nos moyens. Oui, monsieur. Attendez juste le micro.
Donc, j'aimerais savoir s'il y a un alignement entre l'entreprise et l'utilisation des IT. À savoir, maintenant, c'est très évident que l'utilisation de l'iCloud, par exemple, ou le data mining, c'est très important pour la recherche. Et puis, de plus en plus, sera bien utilisé aussi pour l'entreprise. Donc, j'aimerais savoir s'il y a un alignement entre les institutions et l'utilisation des IT pour gérer toutes les choses. Parce que je pense que de plus en plus, les IT deviendront un domaine plus technique qui n'aura la relation entre l'entreprise. Je ne sais pas si je m'exprime
bien. Est-ce que vous pouvez préciser peut-être par un exemple à quoi vous pensez
Donc, par exemple, le data mining, c'est un domaine plus technique pour le moment. Vous avez une base de données, par exemple, puis et on commence à utiliser les données. Mais l'entreprise, c'est plus difficile de gérer. C'est un domaine plus... je ne sais pas comment dire. Il manque la relation entre les employés de l'entreprise et aussi les personnes qui utilisent les data mining, par exemple, pour trouver, par exemple, pour le marketing, c'est très utilisé, les data mining. Mais c'est plutôt une personne qui vient d'ailleurs pour travailler pour l'entreprise et puis ils partent après.
Donc, votre question, c'est... Enfin, je ne sais pas si... Votre question, c'est quelle est, au fond, la part qui est réservée au domaine scientifique puis la part qui est réservée au
ouais,
domaine plutôt commercial
ma question, c'est que... Est-ce qu'il y a déjà un alignement entre l'entreprise et l'utilisation des IT, par exemple, les big data, les data mining, les data warehouse?
Oui, monsieur Stoffel,
je peux essayer de répondre.
Question économique. Oui,
ouais, c'est pas. Voilà. Mais je veux dire, si j'ai bien compris votre question, c'est les entreprises, ils ont des données, ils ont intérêt de faire ce genre de choses, mais ils n'ont pas nécessairement les compétences pour le faire parce que ça coûte cher, c'est un peu intense en compétences et ainsi de suite. Et de l'autre côté, on a des entreprises qui offrent exactement ce genre de choses, mais ils n'ont pas les informations que typiquement les entreprises ont. C'est ça, s'il y a un alignement entre ces deux-là, c'était ça la question. Voilà. Alors, moi, je crois qu'on peut voir ça de deux manières. Alors, les entreprises sont extrêmement hésitantes, comme on a entendu pour Google, mais ça, c'est vrai pour tout le monde. Ils vont quasiment jamais donner leurs données à quelqu'un d'autre. Ils sont extrêmement hésitants de sortir leurs données. Alors, ça veut dire que c'est limité. Ça veut dire que les entreprises, s'ils veulent faire analyser leurs données quelque part ailleurs, ils sont obligés de les partager avec d'autres entreprises. Et la grande majorité des entreprises sont à ce jour-là extrêmement hésitantes de faire ça. C'est vraiment un truc très difficile à faire. De l'autre côté, comme vous avez dit, l'analyse de ces données est très technique. Alors normalement, les entreprises, ils n'ont pas les compétences. Alors typiquement, les PME, si on parle du tissu suisse, les PME ne peuvent pas se permettre même d'avoir une personne dans ces domaines-là parce qu'ils n'ont pas suffisamment de projets pour vraiment justifier l'engagement d'une seule personne, une personne pour faire ça. Et le troisième aspect qu'on a, c'est pour toutes ces choses-là, vous avez parlé de marketing. Un marketing, c'est assez simple, c'est quelque chose qu'on répète très, très souvent. Mais une grande majorité de ce projet d'analyse très pointu, on les fait une seule fois pour avoir une seule réponse. Et là, c'est quelque chose qui n'est pas justifiable pour une entreprise de vraiment engager des gens pour faire ça. Alors, c'est pour ça, actuellement, le défi est dans cette partie-là. Alors, souvent, actuellement, je crois, si vous parlez du modèle business qui fonctionne plus ou moins pour faire ça, c'est une base de consultance. Alors, vous n'allez pas donner les informations à une autre entreprise pour le faire, mais vous faites venir une ou deux personnes pendant 2-3 jours pour faire ce genre de service. Vous avez des grandes boîtes comme SAP, IBM et ainsi de suite. Ils vous fournissent des personnes pour faire ça, qui viennent dans l'entreprise avec l'infrastructure de l'entreprise. Ils vont faire l'analyse et après, ils quittent. C'est ça, je crois, le modèle le plus utilisé à ce moment-là.
Oui, oui.
Je vais juste rajouter une chose. Donc, on voit que les grandes entreprises, donc on parlait de Google, sont les entreprises qui essayent de développer toutes les compétences en interne. Donc non seulement ils font le moteur de recherche, ils ont l'infrastructure, donc ils ont les centres de données avec les serveurs, ils offrent des emails gratuits. Vous avez un email chez Google. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils peuvent lire votre mail, enfin c'est pas des humains qui le lisent, hein, mais les mails sont analysés, vous avez un profil qui est gardé sur vous, et lorsque vous faites des recherches, vous avez des publicités ciblées. Donc, d'avoir toutes les compétences, le moteur de recherche, l'offre gratuite d'email, le calendrier, les recherches, les mots-clés, etc., ça offre un pouvoir économique, une puissance énorme à ces compagnies qui, en plus, ont les serveurs pour le stockage et pour le calcul.
Oui. Bonjour. Bonsoir. J'aimerais savoir pardon, si techniquement il existe un moyen, pas, certainement pas légal, mais qu'un service de renseignement ou autre, ou Google, mais unofficiellement, récolte des données, pas seulement de Google, mais peut-être de Microsoft. Il les ressemble et a donc une fiche sur chaque personne qui va immensément au-delà de ce que une république démocratique allemande pendant les années 60 a fait, ou que, bah oui, vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, j'ai un peu l'impression que la récolte des données va beaucoup plus au-delà que ce que c'était le scandale à l'époque. Mais je ne sais pas s'il existe des techniques vraiment pour les rassembler ou non, pour quelqu'un qui veut.
Alors justement, dans cette, on avait parlé de partage, d'échange, mais que les, est-ce que qui veut répondre, Monsieur Ribaud, peut-être.
Merci pour le micro. Quand on travaille sur des questions de renseignement, puisque les questions que vous mentionnez, on est toujours un petit peu surpris de la manière dont le a priori, hein, puis ensuite on y trouve des raisons, mais dans le système pénal notamment est organisé. Alors, pénaliste dans la salle, là je regarde André là, avec effroi, parce qu'il ne va pas pouvoir ne pas réagir sur ces questions-là, puis je le comprendrai tout à fait d'ailleurs. Il faut savoir que le système pénal en fait va donner des accès aux informations qui ont été consolidées notamment avec la nouvelle procédure pénale. Au travers d'un nouvel échelon de décision qui s'appelle le tribunal des mesures de contrainte, hein, ce qui fait qu'il y a toute une partie d'informations en fait qui est rendue relativement difficilement accessible, relativement lentement accessible, hein, et ce qui fait que des fois il y a des paradoxes qui se mettent en place, c'est-à-dire qu'en tant que chercheur vous avez le droit d'utiliser des informations que les policiers n'ont pas le droit, par exemple, ou des choses comme ça, quoi. Donc il y a un certain nombre de garde-fous qui sont mis en place, et qui sont souvent d'ailleurs l'objet des discussions. Enfin, on arrive souvent dans une démarche un petit peu simpliste et réductrice de dire ah oui, maintenant il y a des événements comme un petit peu, c'était sûr qu'on allait y arriver, hein, mais il y a des événements un petit peu gênants qui se sont passés, donc il faut changer les lois, puis il faut tout ouvrir, quoi. Et puis, à l'inverse, il faut tout fermer. Et puis, le débat, finalement, porte sur l'ouverture ou non des données. Et on oublie un petit peu que derrière, ça ne sert à rien d'ouvrir s'il n'y a pas de méthodologies derrière qui sont bien solides et puis qui ont été développées. Et puis, ça, je suis content aujourd'hui que ce soir, il y a des gens qui sont là pour développer ces méthodologies et puis dire, finalement, quels sont les risques au travers des méthodologies qui sont développées. Parce qu'il ne suffit pas de dire simplement on ouvre tout ou bien on ferme tout, quoi. Enfin, c'est un petit peu le débat manichéen, en fait, qui est très, très énervant, parce que finalement, on ne parle plus des problèmes fondamentaux, quoi. Donc voilà, c'est un petit peu ce que j'avais à dire sur cette question-là. Je ne sais pas si quelqu'un veut prolonger.
Donc, la question, c'était plutôt de savoir, enfin, je sais pas, à moins que j'ai mal compris, si des services de renseignement pourraient avoir accès aux informations que Google ou Microsoft a sur nous. Mais s'ils le font déjà, ils le font en amont. Ils n'ont pas besoin d'aller chez Google ou Microsoft. Ils contrôlent simplement tout ce qui passe à travers les câbles, par exemple, et les satellites, que ce soit entre les câbles optiques entre les États-Unis et l'Europe ou partout, ou les satellites. On sait très bien qu'ils sont surveillés. Donc, en fait, vos emails, avant d'aller chez Google, sont déjà stockés au NSA. Donc, vous avez un backup en plus de Google.
et on peut le demander ou... Boutade mise à part, on parlait des risques, par exemple, si je reviens sur la santé, sur les données médicales. Est-ce que là aussi, le secteur médical est en général mieux gardé ou devrait l'être? Est-ce que là, il n'y a pas plus de garde-fous ou c'est tout aussi transparent?
pour l'instant, la médecine n'était pas une science, en fait, ou une discipline qui avait des big data. C'était le dossier patient, c'est du papier presque partout dans le monde. Donc, c'est très, jusqu'à présent, c'était très bien gardé.
Mais avec la génomique, justement, et voilà, les gens ça va qui changer. Présentent des risques de santé.
Mais c'est-à-dire que le dossier médical va devenir électronique un peu partout, et il y aura toutes les données génomiques. À ce moment-là, elles vont circuler d'un hôpital à l'autre, elles vont passer d'un endroit à l'autre, et il y aura, comme partout, des risques de fuite, de dérapage. Il y a déjà même des cas où déjà des dossiers électroniques ont déjà été pris à certains endroits. Je crois qu'il y a eu le cas du dossier de Schumacher, où il y avait une partie de son dossier qui avait été... du moment qu'il y a l'être humain à un endroit, quelque part, il y a toujours la possibilité de faire partir des données... d'espionner certaines des données. Et si c'est numérique, c'est beaucoup plus simple d'aller récupérer des données numériques que d'aller transporter.
Là, on n'est plus dans la problématique du big data. On est surtout dans la problématique de la protection des données. Là.
Oui, mais la médecine devient une science qui utilise du big data. Oui, et ces données vont être numérisées. Ça commence, ça se fait aussi au niveau des smartphones. Les gens récupèrent leurs données, analysent leurs... Par exemple, il y a des applications pour le diabète... pour les niveaux de sucre. Il y a de plus en plus d'applications qui vont passer à travers les smartphones. Les gens vont envoyer ces données à leur médecin ou à des entreprises qui vont les analyser pour eux, comme on parlait avant d'une entreprise en France qui fait ce genre d'analyse. Et c'est certain qu'au bout d'un moment, ben, il va y avoir aussi ces problèmes de savoir... on est d'accord de donner ces données à une firme qui va donner en contrepartie une analyse qui est utile, mais qu'est-ce qui arrivera à ces données plus tard? Comment elles vont être utilisées plus tard? Et ainsi de suite. Donc ça, c'est clair qu'il y a énormément au niveau de la médecine qui va changer avec le fait que les données médicales seront maintenant électroniques.
Monsieur Stoffel, oui.
Et peut-être une autre dimension de données dans le domaine de la médecine, c'est quand même, c'est pas les données individuelles, mais c'est la santé publique. Alors si on pense à ce qu'on a vu dans le passé, toutes ces différentes pandémies, c'est la grippe aviaire et toutes ces choses-là, moi, je pense, là, c'est un exemple où, d'ailleurs, les données sous forme digitale ont quand même beaucoup aidé à freiner ces processus, à les analyser beaucoup plus vite que si on avait analysé ça tout simplement sur le papier. Parce que là, il y a un phénomène qui est quand même très important. Tout ce qui est, disons, épidémiologie, le processus actuel, typiquement papier, tout ça, il est extrêmement lent par rapport à la mobilité des personnes, la mobilité de toutes ces sortes de virus. On n'arrive pas à suivre. Et si on regarde là, typiquement dans la lutte contre ces éléments-là, ces différents virus, les données ont extrêmement aidé à bien limiter les maladies, les cas, on était tout de suite informé s'il y avait des cas et ainsi de suite. C'est beaucoup plus rapide que le processus habituel à travers les médecins, les différents organes au niveau d'État et ainsi de suite. Alors je crois, individuel, c'est une partie, mais je crois qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi une santé publique, entre guillemets, où peut-être l'individu, c'est vraiment un élément dans une machine beaucoup, beaucoup plus grande, ou un petit bout d'information, ce n'est pas énormément, ce n'est pas quelque chose qui touche vraiment d'une manière profonde à la sphère privée, peut quand même aider. Et c'est, disons, l'OMS, l'Organisation mondiale de santé, ils étaient quand même, on a vu avec tous ces vaccins, un petit peu biaisés. Ça veut dire que le lobbying des pharmaceutiques était beaucoup plus fort que l'analyse des données dans ce contexte-là. Alors je ne sais pas de qui il faut se méfier plus, mais ça, c'est typiquement un exemple, je pense, où typiquement, les grandes masses de données, les données de toute la planète pourront aider de vraiment améliorer les processus.
Peut-être juste intervenir sur l'histoire de faire le lien entre le médical et mon domaine, qui est la mobilité des personnes. Il y a 5 ans, il y a eu le problème du choléra à Haïti. Donc, suite au tremblement de terre, le choléra est réapparu après un siècle à Haïti. Et donc, en gros, le choléra, ça se transmet de deux manières, soit par le contact avec de l'eau contaminée, soit par le contact entre les individus. Et donc, pour prédire l'évolution de la maladie, de l'épidémie, il faut savoir comment bouge l'eau. Et ça, c'est un projet qui a été effectué à l'IPFL, donc juste un modèle hydrologique du pays. Et il faut savoir comment les gens bougent. Alors, comment les gens bougent dans un pays comme Haïti, où il n'y a évidemment pas l'Office fédéral de la statistique aussi développé qu'en Suisse? Moi, j'y étais juste avant de faire ma thèse, donc on ne savait même pas combien de personnes étaient dans la ville où j'habitais. Le maire me disait des facteurs de 1 à 5 pour le nombre d'habitants. Et plutôt que me dire qu'il ne savait pas, il me donnait des chiffres qui changeaient chaque jour.
Alors, soit la population bougeait vraiment très vite, soit il n'avait aucune idée. Je penche plutôt pour la deuxième option. Et donc, l'idée, c'était de faire comme les antennes Wi-Fi, c'est de regarder les antennes de téléphonie mobile, parce que ces gens, bien que pas tous très riches, ont tous un téléphone, puisqu'ils n'ont pas d'adresse postale, ils ont tous un téléphone. Il y a un taux de chômage qui est gigantissime. Donc, comment trouver du travail en ayant un téléphone portable? Donc, c'est vraiment l'objet que les gens ont après avoir une chemise, un pantalon, ils ont un téléphone portable. C'est très impressionnant. Et donc, à partir des antennes de téléphonie mobile, on peut comprendre en partie, alors pas de manière très précise, mais en partie la mobilité des gens en Haïti. Et c'est un projet qu'on avait proposé. On a contacté Digicel, qui est l'opérateur, le Swisscom haïtien, on dira. Et encore une fois, impossible d'accéder à ces données. Donc, je pense qu'il y a alors, peut-être qu'on n'est pas quand on parle des données médicales, des analyses de données extrêmement personnelles, mais il y a une vraie peur sur ce genre de données qui font que c'est très, 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 très difficile d'y avoir accès. Parce que c'est un truc qu'on a essayé de faire et qu'on n'a pas réussi à faire.
Oui. Quand j'ai dit qu'il y a ce danger, donc, en effet, que les données médicales soient distribuées, partent et tout, pour revenir au titre du pas si bad, de Big Data, il y a tous les avantages du fait que les données médicales vont être numérisées, que le patient lui-même va être un acteur de ces données, c'est-à-dire va posséder ces données, son dossier médical, et qui est le plus intéressé à sa santé, sinon le patient lui-même. On est tous intéressés à vouloir être en bonne santé. Donc d'utiliser toutes ces applications, d'utiliser tous les outils, de pouvoir monitorer sa santé, d'utiliser le maximum d'informations sur son état de santé et l'évolution de l'état de santé, ça aura des bénéfices gigantesques. Donc la question de savoir, oui, il y aura des dérives comme partout, il y aura des données qui seront volées, il y aura peut-être des paparazzis qui prendront le dossier médical de X ou Y pour dire qu'ils souffrent de telle et telle chose, mais en contrepartie, il y aura des avancées au niveau médical qui seront énormes, et même des choses toutes simples. Le fait que maintenant tout soit sur papier, ça veut dire que quand quelqu'un arrive dans un hôpital ou arrive chez un autre médecin, le médecin ne sait pas quelles allergies a la personne. Le nombre de chocs anaphylactiques, de médicaments qui sont donnés et qui font des réactions néfastes est énorme. Le nombre de personnes qui meurent par des problèmes médicaux à cause d'erreurs médicales, ça ne va pas être le miracle et tout va disparaître, mais il va avoir quelqu'un qui arrive avec son dossier va pouvoir être au moins certain que si le médecin utilise son dossier, il ne va pas lui donner le médicament qui va avoir, lui faire un problème ou lui faire donner quelque chose qui va lui faire une allergie. Donc là, il y a des avancées énormes au niveau des sauts. Voilà. Alors, tout ça est à mettre en parallèle avec, en effet, le risque que ces données soient volées et divulguées dans certains cas.
Oui, André Kuhn, criminologue.
Merci beaucoup. Alors là, je me permets quand même d'intervenir, parce que le risque du vol des données n'est probablement pas le risque principal dont souffrira la société de demain lorsque le dossier médical sera informatisé. On a informatisé un autre dossier il y a fort longtemps déjà, c'est le casier judiciaire. Et en fait, c'était fait pour les autorités judiciaires, dans un premier temps, pour savoir si quelqu'un était un récidiviste ou pas. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus avoir un emploi sans devoir demander votre propre extrait de casier judiciaire et aller le montrer à votre futur employeur. Demain, nous ne pourrons plus avoir un emploi sans que je doive demander mon propre casier médical, puisque c'est ça qu'il s'agira, dossier médical, que je devrais moi-même déposer auprès de mon futur employeur. Si je ne le fais pas, je ne suis tout simplement pas engagé, et si je le fais, je dévoile moi-même les données. D'où la nécessité de trouver effectivement un jeu de règles qui permette absolument d'éviter la dérive qui est arrivée avec le casier judiciaire.
Oui, alors justement, allons dans ce sens. Moi, je vais revenir très brièvement sur le rapport dont je parlais en préambule à cette discussion. Les auteurs du rapport imaginent quelques mesures, disons très très générales. C'est plus un plan d'intention en fait que vraiment des recettes. On parle notamment du principe de contrôle personnel des données. Alors c'est très intéressant, on rêve tous de faire ça.
mais en général, du moins du peu que j'en sais, par exemple, si on veut juste envoyer des messages qui soient cryptés, des emails cryptés, il faut pratiquement être informaticien pour s'amuser à ça. Enfin, j'exagère, mais pourquoi est-ce que les utilisations de protection des données ne sont pas aussi simples que l'utilisation des applications qu'on veut utiliser. Est-ce qu'il y a une réelle intention là-dedans de ce principe de contrôle personnel des données, ou est-ce qu'on n'y est pas du tout?
Alors, je peux parler brièvement de ce qui est protection des emails, par exemple, toutes les techniques de chiffrage. Le problème, c'est que c'est extrêmement complexe. Tout ce qui est les mécanismes qui sont mis en œuvre sont compliqués. Vous pouvez avoir quelque chose qui est facile à utiliser. Par contre, vous n'aurez pas une sécurité à toute épreuve parce que ce n'est peut-être pas vous qui définirez une clé de chiffrage qui est assez solide. Il y a peut-être aussi un intérêt par les personnes qui vous fournissent les outils de ne pas vous donner trop de moyens pour protéger vos données. Et il y a un autre aspect qu'on néglige, c'est que même si vous avez un mécanisme qui est extrêmement sûr pour protéger vos données, rien ne vous dit que dans 10 ans, on n'aura pas les techniques pour décrypter vos données. Ça s'est vu dans le passé. On avait des techniques qui étaient très fiables il y a 20 ans, puis maintenant, avec un ordinateur de bureau, en 2 minutes, on peut déchiffrer des messages qui étaient encryptés il y a 20 ans. Alors, ça dépend de la pérennité de vos données. Si c'était des données, on parlait du génome, des données qui peuvent ressurgir 50 ans après, c'est un problème. Si c'est un message qui annonce que dans 3 jours, on va faire quelque chose, passer les 3 jours, c'est pas grave si quelqu'un va déchiffrer vos données. Donc, il y a vraiment une question qui est importante, c'est: est-ce que vous voulez vraiment protéger vos informations? Et puis, est-ce que vous voulez les protéger pour une durée limitée, en mettant assez de complexité pour que seul peut-être un gouvernement ait les moyens techniques de le déchiffrer dans cet intervalle de temps? Ou est-ce que vous voulez le protéger de manière durable pour l'éternité? Puis là, on n'a pas de garantie que les mécanismes qu'on utilise actuellement sont suffisants pour garantir que dans 15 ans, 20 ans, personne ne pourra reconstituer vos données.
Alors, oui.
Ceci dit, on a dit qu'on parlerait des aspects positifs.
Oui, voilà, j'aimerais peut-être dériver un petit peu. Oui. Alors, allons sur dans ces minutes qui restent. Moi, j'aimerais qu'on parle de votre monde rêvé en tant qu'utilisateur de Big Data, et puis des perspectives que vos recherches laissent entrevoir dans le futur.
Juste rajouter un dernier point qui va dans ce sens-là, et on l'a mentionné avant. C'est vrai que les données personnels sont sensibles. Mais lorsqu'on travaille avec des données qui sont des données agrégées, on parle de grand nombre, finalement, nos données personnelles vont être combinées avec les données d'autres personnes, et plus il y a de données qui vont se rajouter, plus notre échantillon particulier sera invisible et représentera une moyenne. À ce moment-là, je pense que chacun d'entre nous est prêt à contribuer à partir du moment où on sait que nos données personnelles vont être oubliées rapidement. La vision du Big Data, c'est aussi une vision où on va faire des applications qui seront utiles à la communauté en agrégeant de manière anonyme, entre guillemets, un grand nombre de données personnelles pour arriver à voir des tendances, des épidémies, des mouvements de foule, ce genre de choses. Et je pense que là, tout le monde est prêt à jouer le jeu, parce qu'il y a vraiment des applications qu'on ne pouvait pas faire à l'époque, parce qu'on a maintenant chacun une connexion dans la poche, on a chacun aussi une certaine mobilité, on a les moyens techniques pour traiter ces données en temps réel, les interpréter. Donc il y a vraiment des applications qui peuvent se développer là autour et qui, à mon avis, n'entravent pas trop la vie privée à partir du moment où on oublie l'individu et on représente plutôt une communauté.
Alors, dans la foulée, vos voeux par rapport au Big Data?
Alors mon vœu par rapport au Big Data, je vais être peut-être un peu cynique par rapport à cette question-là. Je crois que la société, elle a choisi. Je parlais de l'arrêt de bus tout à l'heure, où il va y avoir la moitié des gens qui sont sur leur smartphone. On peut toujours leur confisquer leur smartphone, mais je ne pense pas que les gens vont être très contents. Si on confisque les ordinateurs à nos étudiants dans les salles de cours, je ne pense pas qu'ils vont être très contents non plus, parce qu'ils ne pourront plus communiquer à distance dans les mondes virtuels. Donc on voit que tout change avec la communication, tout change avec le Big Data. La société change, et on sait aussi que la criminalité s'insère finalement finalement dans ces changements de société, s'insère vraiment dans, ces, dans, dans la, la routine. Il y a une théorie qui s'appelle les activités routinières qui dit que la criminalité s'insère vraiment dans, dans, les, dans le fonctionnement de la société. Alors pour nous, c'est des objets de recherche extraordinaires. Donc on va devant de, d'une diversité de, d'objets de recherche extraordinaires, mais justement pour pas être cynique, je pense aussi un petit peu notre rôle de, d'essayer de comprendre en fait, ces, ces nouvelles formes de criminalité, d'essayer d'en dessiner les contours, d'essayer aussi de, d'alerter sur un certain nombre de risques que ces formes de criminalité peuvent, peuvent comporter, aider les gens qui définissent des normes bah, de définir ces normes au travers d'une certaine compréhension. Je ne suis pas toujours, toujours sûr qu'aujourd'hui c'est le cas du législateur de bien comprendre les fondements qu'il y a derrière ces nouvelles formes de criminalité. Je pense que là il y a un rôle à jouer, et puis de nouveau des objets de recherche extraordinaires, donc là on a du boulot pour, voilà, pour des siècles hein.
Est-ce qu'à ce stade, vous avez déjà des succès dont vous pouvez nous parler, peut-être
Oui, dans, de, je dirais de manière générale, tout problème qu'on parvient à mieux comprendre est un succès, quoi. Et de ce point de vue-là, la diversité des nouvelles formes de criminalité, ben oui, il y a des connaissances qui s'ajoutent sur les 10 dernières années, des connaissances extraordinaires qui sont ajoutées sur des systèmes de délinquance. Ça ne veut pas dire qu'on peut faire grand-chose, hein, mais pour l'instant, hein, on n'a peut-être pas les moyens, les problèmes de gouvernance aussi, enfin les problèmes qui nous échappent. Mais j'entends aujourd'hui, on arrive
démanteler un réseau de cambrioleurs ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y a eu des contributions?
Ah ouais, bon, ça c'est la routine, ça.
Il faut le dire.
On n'ose même pas en parler, quoi. Non, non. Non, mais c'est quand même. Après, est-ce que voilà, après on peut se poser un tas de questions sur la question de la neutralisation des auteurs. Est-ce qu'on ne devrait pas adopter des démarches plus préventives, etc. Mais là aussi, les connaissances augmentent et de ce point de vue-là, je crois que les 10 dernières années ont été assez prolifiques en matière de nouvelles connaissances sur forme de criminalité, les manières de prévenir, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, et aussi sur la professionnalisation d'un certain nombre de métiers liés à ces questions-là, qui fait que voilà, il y a des espoirs, mais demander en mouvement, puis il faut sans arrêt. Je pense de nouveau étudier ces objets de recherche et puis essayer d'en dégager des solutions. Quoi. Mais tant qu'on ne comprend pas les choses, c'est clair qu'on n'aura pas de solution. Quoi.
Peut-être Antonin Danalet, vous pouvez enfin. Quel est votre vœu le plus cher par rapport à la suite de vos recherches là?
Oui. Peut-être que je vais juste parler du passé en quelques mots. Ça fait depuis 1960 que l'OFS collecte des données sur les trajets de la population suisse, et personne n'est choqué par ça. Et pourtant, il y a l'identité des personnes dans ces données. On travaille régulièrement encore avec le recensement mobilité. Depuis les années 70, on fait la même chose pour le train. Donc, c'est quelque chose qui. Collecter des données, c'est quelque chose qu'on a toujours fait en mobilité. Peut-être que le débat big data, les règles, etc., elles ne sont pas les mêmes pour les différents types de données, mais en tout cas, en mobilité, c'est des données qui existent. Je dirais que la grosse évolution, peut-être pour ne pas utiliser le mot big data qui n'est pas très bien défini, c'est que maintenant, le plus gros propriétaire de données sur la mobilité des Suisses, ce n'est pas l'OFS, c'est probablement Google et Facebook. Et c'est là où il y a un vrai problème, c'est que les gens, avant, donnaient leurs infos personnelles à un institut public pour une utilisation très précise, et maintenant, le consentement de l'individu est beaucoup moins clair, parce que c'est probablement écrit quelque part dans le contrat que vous avez signé avec Google, mais vous ne l'avez pas lu. Et donc, je pense que si je devais faire un vœu pour les données de mobilité, ce serait un consentement éclairé. Il y a eu, après la Deuxième Guerre mondiale, toute la question des commissions d'éthique pour la recherche médicale. Et je pense qu'on devrait faire la même évolution maintenant, c'est-à-dire créer un outil de la société pour que les gens puissent donner un consentement sur leurs données de mobilité. Alors, je crois que la question des données médicales est un peu plus compliquée, mais pour les données de mobilité, on a un vrai souci d'avoir moins de données que Google. Et ça, c'est embêtant. C'est-à-dire que les CFF qui investissent 1 milliard de francs sur la gare de Lausanne n'ont pas accès à des données qui sont générées par les utilisateurs de la gare de Lausanne. Et ces données, elles doivent pouvoir améliorer la vie de chacun d'entre nous et pas seulement le chiffre d'affaires de Google, même si Google nous offre plein de services que je reconnais et que je trouve très bons par ailleurs. Mais il y a ce problème de consentement éclairé et de but des données qu'on partage, d'objectifs.
Donc il faudrait avoir un moteur de recherche étatique, ce qui serait sous le contrôle de l'État, mais ça, ce serait un autre débat. Amos Béroc.
Pour la recherche dans les sciences de la vie, on ne pourrait plus faire de la recherche moderne dans les sciences de la vie, donc en biologie et puis en médecine, sans le big data, sans toutes ces données, des génomes, des protéomes. Donc ça, c'est clair que pour tout ce qui est recherche, je veux dire, il n'y a pas de downside à avoir accès à ces données biologiques, des génomes, des protéomes et des métabolomes. Ça permet d'avancer au niveau biotechnologique, au niveau médical et ainsi de suite. Donc c'est disons que c'est inconcevable de pouvoir se passer de ces données-là. Et là, il n'y a pas tellement un problème, disons, d'éthique. Il y a plein de rêves que ces données vont amener à des avancées plus en plus rapides au niveau de la compréhension du monde vivant et donc de médicaments ou d'amélioration au niveau de la nourriture. Parce que ce n'est pas seulement le monde médical, mais aussi il faut nourrir la planète. Il y a tous les problèmes écologiques, il y a tous les problèmes, disons, qui sont autres que ceux de santé, où la biologie et la médecine jouent un rôle. Et là, ces données sont... les scientifiques ne peuvent plus penser maintenant à revenir au moment où ces données n'existaient pas. Et donc, ce que je parlais avant, qui étaient les données personnelles médicales, là, il y a des problèmes éthiques, juridiques à résoudre. Mais au niveau de la recherche, ça, c'est clair que le big data, pour les biologistes, c'est leur pain quotidien. Et c'est
essentiel.
Oui, c'est essentiel. On ne peut plus faire la recherche sans ça.
Enfin, le mot de la fin, peut-être à Kilian Stoffel.
Alors, ouais, peut-être on pourrait le dire comme ça. Moi, je pense, si on analyse ça, moi, je ne pense pas que le big data est mauvais ou est bon. C'est ce qu'on fait avec. Et c'est l'ancien problème de toutes les technologies. Si on pense au problème des physiciens durant la Deuxième Guerre mondiale, okay, ils ont inventé le nucléaire. En soi, il n'était pas mauvais ou bon, mais ce qu'on avait fait à un moment donné était très mauvais. Après, une fois, c'était peut-être un petit peu plus positif. Et maintenant, on est en train de sortir de tout ça. Moi, je pense que le grand problème avec Big Data, c'est un petit peu la même chose. Si on n'arrive pas à former, à créer des sociétés qui peuvent réellement vivre avec ça, on ne va pas résoudre le problème ni avec des lois, comme on a vu en finance. On a essayé de mettre des lois. Je ne crois pas que les financiers ont beaucoup changé, mais voilà, on a essayé. Big Data, c'est encore beaucoup plus difficile parce que c'est encore beaucoup plus international, beaucoup plus en dépensant les pays et ainsi de suite. Et vous ne pouvez pas demander aux politiciens qui aujourd'hui utilisent exactement ces trucs-là pour se faire élire de changer quelque chose là-dedans. C'est absolument illusoire. Alors, je crois que c'est un grand défi. Et c'est peut-être le problème de ce soir qu'on est plutôt tous côté technique ou application, mais il nous faut des gens sociologues, ethnologues, juristes, politologues. C'est vraiment un problème de société ou c'est un phénomène de société. Je crois qu'il peut seulement être résolu par la société, pas ponctuellement par des petits règlements à gauche et à droite.
D'accord. Ben, merci beaucoup pour ces perspectives. Oui. Non. D'accord. Donc il est l'heure, malheureusement, de clore cette discussion. Je vous remercie à toutes et tous d'avoir été fidèles, de venir. Je voudrais, en cette dernière séance de l'année, faire un particulier merci à Roland Hamsler, qui assure la technique très discrètement et toujours de manière très pointue ici depuis 10 ans. Et puis au service de communication de l'Université de Neuchâtel, représenté par Claudine Assad, qui nous soutient dans ces démarches. Et enfin, à nos intervenants pour être venus ce soir animer ce dernier café de la saison. Je vous donne déjà rendez-vous le 24 janvier. Nous parlerons droit, nous parlerons migration, nous parlerons des passeurs de migrants, criminels ou héros. Je vous laisse donc sous ce titre un peu provocateur et vous souhaite déjà une excellente fin d'année et puis une très bonne soirée et à janvier. Merci beaucoup.